La mourante eut un regard d'incrédulité d'abord, puis de haine. En cet être d'où l'existence fuyait, le dernier sentiment fut le désir de tuer. Oh non, elle n'avait à regretter aucun de ses actes. Elle avait eu bien raison d'être méchante, puisque le monde n'était peuplé que de méchants. La pensée qu'elle recevait là, à l'ultime minute, le salaire de ses crimes, ne l'effleura même pas. C'était une âme sans rachat. Quand sa fille arriva de Poissy, Mao lui désigna Béatrice d'un doigt raide et froid, qui ne pouvait presque plus bouger. Sa lèvre se contracta, mais sa voix ne put sortir. Et elle rendit la vie dans cet effort. Aux obsèques, qui eurent lieu le 30 novembre à Maubuisson, Robert eut un maintien pensif et sombre qui surprit. Sa manière eût été davantage d'afficher un air de triomphe, pourtant son attitude n'était pas feinte. À perdre un ennemi contre lequel on s'est battu 20 ans, on éprouve une sorte de dépouillement. La haine est un lien très fort qui laisse en se rompant quelques mélancolies. Obéissant aux dernières volontés de sa mère, la reine Jeanne la Veuve, dès le lendemain, demandait à Philippe VI que le gouvernement de l'Artois lui fût remis. Avant de répondre, Philippe VI tint à s'en expliquer très franchement avec Robert. « Je ne puis faire autrement que de déférer à la requête de ta cousine Jeanne, puisque d'après les traités et jugements, elle est l'héritière légitime. Mais c'est un consentement de pure forme que je vais donner, et provisoire, jusqu'à ce que nous parvenions à un règlement ou bien que le procès ait lieu. Je t'engage à m'adresser au plus tôt ta propre requête. » Ce que Robert s'empressa de faire par une lettre ainsi rédigée. « Mon très cher et redouté seigneur, comme je, Robert d'Artois, votre humble comte de Beaumont, ai été longtemps déshérité contre droit et contre toute raison par plusieurs malices, fraudes et cautelles de la comté d'Artois, laquelle m'appartient et doit m'appartenir par plusieurs causes bonnes, justes, de nouveau venues à ma connaissance, ainsi vous requiert humblement qu'en mon droit vous me vouliez ouïr. » La première fois que Robert revint à la maison Bonnefille, Béatrice crut lui servir un plat de choix en lui faisant le récit heure par heure des derniers moments de Mao. Il écouta, mais sans témoigner aucun plaisir. « On dirait que tu la regrettes, » dit-elle. « Non point, non point, » répondit Robert pensivement. « Elle a bien payé. » Son esprit était déjà tourné vers le prochain obstacle. « À présent, je puis être dame de parage chez toi. Quand vais-je entrer en ton hôtel ?»«
Quand j'aurai l'Artois, » répondit Robert. « Fais en sorte de rester auprès de la fille de Mao. C'est elle maintenant qu'il me faut écarter de ma route. »
Lorsque Madame Jeanne la Veuve, retrouvant un goût des honneurs qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de son époux Philippe le Long, et libérée enfin à 37 ans de l'étouffante tutelle maternelle, se déplaça en grand appareil pour aller prendre possession de l'Artois, elle fit halte à Roy en Vermandois. Là, elle eut envie de boire un gobelet de vin claret. Béatrice d'Hirson dépêcha les chansons Huppin à enquérir. Huppin était plus attentif aux yeux de Béatrice qu'aux devoirs de son service. Depuis 4 semaines, il languissait d'amour. Ce fut Béatrice qui apporta le gobelet. Comme elle était cette fois pressée d'en finir, elle n'usa pas d'arsenic, mais de sel de mercure. Et le voyage de Madame Jeanne s'arrêta là. Ceux qui assistèrent à l'agonie de la reine veuve racontèrent que le mal la saisit vers le milieu de la nuit, que le venin lui coulait par les yeux, la bouche et le nez, et que son corps devint tout taché de blanc et de noir. Elle ne résista pas 2 jours, n'ayant survécu que 2 mois à sa mère. Alors la duchesse de Bourgogne, petite fille de Mao, réclama la comté d'Artois.
Troisième partie.